Afrique, les infos à Washington.
Eric Manilakiza avec vous, le moment de suivre votre bulletin d'information. Nous commençons par le Kenya, où paraissait toujours plus divisé. Après une présidentielle boycottée par l'opposition, endeuillée par la mort de plusieurs de ses partisans, les opérations de compilation des résultats se poursuivaient aujourd'hui. D'après Wafula Chebukati, président de la commission électorale, les résultats de plus de 36 000 des 40 883 bureaux de vote du pays étaient déjà transmis à la commission. Le taux de participation a été estimé à moins de 35% des 19,6 millions d'électeurs sur plus de 90% des circonscriptions dépouillées. La faible participation questionne d'ores et déjà la légitimité du président Uhuru Kenyatta. L'opposant Raila Odinga a qualifié ce scrutin de mascarade électorale. Plus de 500 Togolais ont trouvé refuge au Ghana voisin, fuyant la répression des forces de sécurité dans la région de Mango, dans le nord du pays. Dans un climat de forte contestation populaire contre le pouvoir, a révélé l'ONU. Depuis deux mois, le Togo connaît une forte vague de contestation contre le président fort Gnassingbé au pouvoir depuis 2005, après avoir succédé à son père, le général Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans. Des milliers de réfugiés sud-soudanais sont sans abri à Khartoum après la démolition de leurs habitations par la police soudanaise. L'alerte a été lancée par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Des précisions de Abdulrahman Dia.
À Kinshasa, les attentes sont multiples concernant le séjour de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley. Si pour Lambert Mendeo Malanga, le porte-parole du gouvernement, et l'ambassadeur Kikaya Bin Karubi, conseiller principal au collège diplomatique du président Kabila, la diplomate américaine n'est pas venue parler politique, mais évaluer les réels besoins de la force onusienne en République démocratique du Congo. Au rassemblement, on en attend beaucoup plus. Dans un mémorandum lui adressé à Goma au Nord Kivu, cette plateforme politique de l'opposition réclame des sanctions ciblées contre Joseph Kabila et son entourage. Nous attendons de lui qu'il obtienne du président Kabila le respect de la Constitution et de l'accord du 31 décembre 2016, a précisé de son côté Christophe Lutundula, cadre du G7. Dans les rues de la capitale de la RDC, la plupart des Kinois interrogés espèrent que cette première visite d'un cadre de l'administration Trump permet l'accélération du processus électoral. Qu'elles mettent la pression sur nos autorités pour nous obtenir l'organisation rapide des élections, car nous voulons aller voter, a dit l'un d'eux. De retour à Kinshasa après Goma et Kichanga au Nord Kivu, Nikki Haley devrait échanger avec le président Kabila, les responsables de la CENI, le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Mgr Marcel Outembi, et Maman Sidikou, le numéro 1 de la MONUSCO. Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Merci à Thierry Kamundi de Top Congo FM. Vous auriez donc entendu qu'il s'agissait de la visite de trois jours en RDC de la représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, qui était hier à Goma, et à Kichanga, au Nord Kivu, où elle a notamment visité un camp de déplacés dans lequel vivent près de 15 000 personnes. Madame Haley échange aujourd'hui avec d'autres acteurs, dont notamment le président Joseph Kabila. Nous allons donc revenir sur cette nouvelle concernant des milliers de réfugiés sud-soudanais qui sont sans abri à Khartoum après la démolition de leurs habitations par la police soudanaise. C'est une alerte lancée par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, comme le précise Abdulrahman Dia.
Selon l'agence onusienne, plus de 450 000 Sud-Soudanais fuyant la guerre qui ravage leur pays ont trouvé refuge au Soudan voisin. Mais pour Khartoum, ils sont beaucoup plus nombreux et seraient 1 300 000. Ces derniers mois, la police soudanaise a démoli environ 220 abris ou habitations de réfugiés à Khartoum ou a transféré ces personnes vers d'autres endroits sans planification adéquate. Une situation que déplore le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui estime à 2000 le nombre de réfugiés privés de toit à cause de cette action de la police. De nombreux réfugiés, principalement des femmes et des enfants, se trouvaient hier encore dans la zone d'habitat informel où ont eu lieu ces démolitions. D'autres réfugiés ont été transférés à Omdurman, ville jumelle à Khartoum, provoquant, selon la CHR, un surpeuplement et une surcharge du réseau d'eau et des installations sanitaires.
Abdourahman Dia, la Commission électorale nationale du Libéria appelle les citoyens au vote dans un message posté sur Facebook. N'oubliez pas de voter. Le scrutin du second tour de la présidentielle se tient dans 10 jours et verra s'affronter l'ex-star du football Jojo Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai. La justice sud-africaine a lourdement condamné deux fermiers blancs pour avoir tenté d'enfermer un noir dans un cercueil et l'avoir menacé de mort. Cette affaire illustre la persistance des tensions raciales 23 ans après la fin de l'apartheid. Willem Oosthuizen a été condamné à 16 ans de réclusion, dont 5 ans avec sursis. Et Theo Martins Jackson à 19 ans, dont 5 avec sursis. Ils ont accueilli nerveusement leur condamnation, tête baissée sur le banc des accusés, tandis que des membres de leur famille éclataient en sanglots dans le public. Les deux fermiers avaient plaidé non coupables. L'équato-guinéen Théodorine Obiang a été condamné pour s'être frauduleusement bâti en France une énorme fortune. Il a écopé 3 ans de prison et 30 millions d'euros d'amende avec sursis. Ses biens saisis en France sont confisqués, dont un somptueux hôtel particulier avenue Foch à Paris. La condamnation à Paris de Théodorine Obiang, fils du président de Guinée équatoriale, constitue une première dans l'affaire des biens mal acquis, l'acquisition de patrimoine considérable en France par plusieurs dirigeants africains. Le bilan de l'épidémie de peste qui frappe Madagascar depuis le mois d'août s'est aggravé pour atteindre 124 morts. Pour tenter d'en enrayer, le gouvernement a interdit les réunions publiques dans la capitale Antananarivo et ordonné la fermeture de nombreux établissements scolaires. C'est la décision prise par le gouvernement.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le gouvernement espagnol devrait obtenir aujourd'hui le feu vert du Sénat pour prendre le contrôle de la Catalogne. Il s'agit d'une mesure sans précédent en 40 ans de démocratie à laquelle les séparatistes pourraient répliquer par une déclaration d'indépendance. Le Sénat espagnol s'apprête donc à voter en faveur du déclenchement de l'article 155 de la Constitution pour permettre au gouvernement de Mariano Rajoy de mettre la Catalogne sous tutelle, une mesure drastique et délicate à mettre en œuvre. Un Allemand né en Somalie, présenté comme Abshir Ahmed, a été condamné à 2 ans et 10 mois de prison ferme pour avoir combattu dans son pays d'origine dans les rangs des insurgés islamistes Shebab liés à Al-Qaïda. Le parquet avait requis 3 ans et demi de prison à l'encontre de cet homme, détenteur de la nationalité allemande et natif de Mogadiscio. Les tribunaux allemands ont condamné plusieurs djihadistes de retour dans le pays après avoir combattu pour des groupes ou des milices islamistes à l'étranger. Après un suspense long de plus d'un siècle, l'administration Trump a publié hier près de 3000 dossiers secrets sur l'assassinat du 35e président des États-Unis, John F. Kennedy, repoussant toutefois de 6 mois la divulgation de certains documents jugés trop sensibles. L'avenir de la Syrie s'écrira sans Bachar al-Assad, on tenait les États-Unis hier, peu avant qu'un rapport de l'ONU accuse le régime de Damas d'être responsable d'une attaque au gaz sarin, éclipsant l'annonce dans la journée d'un nouveau cycle de pourparlers. La nouvelle ère annoncée par Xi Jinping n'offrira aucun répit sur le front des libertés en Chine. redoutent. Les militants des droits de l'homme, dont bien peu, ont pu faire entendre leur voix durant le congrès du Parti communiste au pouvoir. Fin de ce journal. Merci de votre oreille attentive. Le prochain, c'est dans 50 minutes. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Ah.